Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Olivier Roux.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Vous le savez peut-être, la France est en plein débat, un grand débat national provoqué par les débuts du mouvement des Gilets jaunes. Dans ces manifestations, comme semble-t-il dans les cahiers de doléances, qui se remplissent partout dans le pays et comme l'attestent les sondages, l'une des revendications les plus populaires, c'est le rétablissement de l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui est né d'abord en 1980. Après l'accession de François Mitterrand au pouvoir. Sa disparition et son remplacement par un impôt sur la seule fortune immobilière avaient été défendus par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017 et ce fut une des premières décisions prises. Objectif affiché, créer un climat favorable à l'investissement en France, mais la logique de ce raisonnement échappe à beaucoup de gens qui pensent au contraire qu'il faut taxer la richesse, en particulier pour lutter contre les inégalités. C'est à ce débat, faut-il taxer la richesse ou pas, et si oui, comment, que nous allons consacrer cette émission que j'ai intitulée « Liberté, égalité, fiscalité » avec trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Léo Charles.
Bonjour.
Léo Charles, vous êtes professeur d'économie, maître de conférence à l'université Rennes 2. Vous êtes aussi membre du collectif des économistes atterrés et c'est sous cette étiquette de gauche que vous avez publié une note intitulée « Intox autour de la suppression de l'ISF. Avec vous en studio, Guillaume Allègre, bonjour.
Bonjour.
Guillaume Allègre, vous êtes économiste à l'OFCE, où vous êtes un spécialiste des questions fiscales. Vous venez de publier une étude consacrée à l'imposition des couples en France et au quotient familial. Et je termine cette rapide présentation par vous, Étienne Lehmann, bonjour.
Bonjour.
Étienne Lehmann, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, où vous enseignez l'économie de la fiscalité. Au cours de cette émission des reportages, nous entendrons la déambulation de Gabriel Maréchaux dans les beaux quartiers de Paris. Nous nous intéresserons aussi à la manière dont la richesse est taxée dans le monde, avec un reportage de Pascal Thibault à Berlin et un autre signé Noé Hochet-Baudin à Johannesburg. Léo Charles, dans le document dont vous êtes l'auteur et que j'évoquais à l'instant, vous reprenez une petite phrase d'Emmanuel Macron pendant ce mouvement des Gilets jaunes. « C'est de la pipe », disait le président de la République au sujet du rétablissement de l'ISF au cours d'une rencontre avec des maires le 15 janvier dernier. Valérie Gaz du service politique de RFI en rendait compte le jour même sur nos antennes.
Emmanuel Macron a écouté les élus pendant plus de deux heures sans intervenir. L'accès aux services publics, à la santé, les questions de mobilité ont été abordées par les élus, mais aussi...
Ce qui remonte le plus fréquemment dans les contributions citoyennes, c'est la suppression emblématique de l'ISF.
L'ISF, l'impôt sur la fortune, à cette question Emmanuel Macron a répondu par une pirouette.
Faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça c'est de la pipe.
Avant d'ajouter que ce n'était pas un tabou et que la réforme devait être évaluée, Emmanuel Macron a répondu longuement à toutes les questions qui ont été posées. Objectif, montrer sa bonne volonté.
Un reportage signé Valérie Gas sur les antennes de RFI le 15 janvier dernier. Léo Charles, rétablir l'ISF n'améliore pas la situation de la population française ?
Alors sur l'ISF, on peut ouvrir le débat et Emmanuel Macron, le souci, moi ce que je démontre dans la note, c'est que il se base sur trois arguments qui sont un peu fallacieux, un peu exagérés. Et donc ce dernier là sur ce que vous pointez, moi ce que je démontre, c'est que la suppression de l'ISF nous fait perdre entre 3 et 4 milliards d'euros de recettes fiscales par an. Et ce que je montre, c'est qu'on a à peu près 2 millions d'emplois salariés dans le privé payés au SMIC. Et donc c'est une prime de 130 euros par mois. Donc dire que ça n'améliorera pas la situation des Gilets jaunes, déjà sur ce point-là, ce n'est pas vrai.
Oui, mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. L'ISF n'allait pas directement dans la poche des salariés français, ça allait dans le budget de l'État et ça finançait les travaux publics, des infrastructures, le salaire de fonctionnaires, d'enseignants comme Étienne Lehmann.
Oui, Bien sûr, mais alors là, on prend, j'ai pris un exemple qui est assez marquant.
Ou comme vous, d'ailleurs.
Voilà, c'est un exemple assez marquant puisque Emmanuel Macron a plus ou moins revalorisé de 100 euros la prime d'activité, etc. Donc j'ai pris un peu le parallèle en disant qu'on pouvait avoir une vraie prime non soumise à conditions, etc. Après, oui, on pourra ouvrir le débat, c'est bien sûr.
Mais on est là pour ça. Mais pourquoi ne fallait-il pas supprimer l'ISF alors, selon vous?
Selon moi, si l'ISF était resté tel quel, on n'aurait peut-être pas connu le mouvement des Gilets jaunes. Ça a révélé finalement une injustice fiscale globale, ça a révélé finalement que la taxation globale en France était très inégalitaire, était de moins en moins progressive, et donc pour moi c'est une erreur politique avant d'être une erreur économique.
Vous écrivez que cela fait partie d'une stratégie destinée à augmenter la rentabilité du capital en diminuant le coût du travail, choix qui bénéficie aux plus riches et pèse sur les classes populaires.
La suppression de l'ISF, effectivement, c'est dans une politique fiscale globale d'Emmanuel Macron qui profite aux 1% les plus riches. L'exemple, c'est la transformation en EASY, donc qui taxe la fortune immobilière. On voit que finalement, les 1% les plus riches, 80% de leur patrimoine sont constitués par les actions, les dividendes, etc. Donc, ils sont complètement évacués de cette nouvelle taxation qui est l'EASY.
Guillaume Allègre, vous partagez complètement ce point de vue ?
Ben oui, je pense que l'ISF, ou en tout cas la taxation du patrimoine, parce que je pense que l'ISF avait quelques défauts qu'il faudrait corriger. Mais je pense, oui, que la taxation du patrimoine est justifiée. Alors pourquoi est-ce qu'elle est justifiée ? Il peut y avoir plusieurs raisons. Ben, premièrement, parce que le patrimoine augmente la capacité contributive des ménages. Vous avez deux ménages à même revenu. Si un ménage a 2 millions d'euros de patrimoine et l'autre ménage n'a pas de patrimoine, mais celui qui a du patrimoine a une capacité contributive plus importante. Or, l'imposition selon la capacité contributive a une valeur constitutionnelle. C'est inscrit dans notre constitution. Deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faut imposer le patrimoine, ça peut être perçu finalement comme une contribution à la stabilité financière et économique. L'État, on l'a vu en 2008, assure et garantit...
Lors de la grande crise,
assure et garantit la stabilité économique. Donc on a sauvé les banques, mais en sauvant les banques, on a sauvé évidemment en premier lieu les personnes qui ont du patrimoine. Donc finalement, l'impôt sur le patrimoine, ça peut être perçu comme une prime d'assurance. C'est-à-dire, s'il y a un problème, eh ben, l'État est là pour garantir les droits de propriété et le patrimoine. Et puis évidemment, vous l'avez mentionné, la taxation du patrimoine permet de réduire les inégalités de patrimoine. Donc on sait aujourd'hui que 10% des ménages détiennent 60% du patrimoine. Donc on va en parler, hein, et taxer le patrimoine peut avoir quelques effets indésirables. Je pense pas qu'il soit si important que ça, mais ne pas taxer le patrimoine, ne pas réduire les inégalités peut aussi avoir des effets indésirables en termes de consentement à l'impôt, on en a parlé, mais aussi en termes de consentement à une économie ouverte, comme on le voit pour le Brexit aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est pas un hasard si dans ces deux pays, finalement, les inégalités sont parmi les plus élevées des pays développés.
Étienne Lehmann, alors vous êtes le vilain petit canard dans ce débat, probablement, on va voir.
Je suis d'accord avec l'idée. Avec l'idée qu'à un moment donné, il faut avoir des instruments pour éviter que le patrimoine soit trop concentré. Si le patrimoine est trop concentré, c'est une concentration des pouvoirs économiques, c'est une concentration des pouvoirs politiques, et c'est pas ça. De ce point de vue-là, effectivement, la France est l'un des pays où les inégalités, quand on remesure les inégalités par les parts des 1% les plus riches, on le fait en termes de revenus, on le fait en termes de patrimoine. D'ailleurs, on se rend compte que la France a des performances relativement viables vis-à-vis du reste du monde. Parce
c'est-à-dire
qu'on a réussi.
Il y avait moins d'inégalités.
On a réussi, on a beaucoup moins d'inégalités en France de revenus et même aussi de patrimoine qu'aux États-Unis, par exemple, et heureusement. Donc ça, je m'en félicite. La question, c'est est-ce que c'est forcément par l'ISF qu'il faut l'utiliser ? Moi, j'ai un doute. Est-ce que c'est forcément l'ISF qui jouait ce rôle de ceinture de sécurité contre la montée des inégalités de patrimoine ? J'ai des doutes. L'ISF, en gros, taxé le patrimoine immobilier et le patrimoine financier. On se rend compte que avec le passage à l'IFI sur la fortune immobilière, en gros on est passé de 4,5 milliards à 1,2 milliard, donc ce qui est strictement patrimoine immobilier sur l'ISF,
c'est-à-dire de 4 milliards à 1,2 milliard de revenus fiscaux,
c'est ça, c'est-à-dire que l'ISF chaque année rapportait grosso modo 4,5 milliards à l'État, et l'IFI on l'a vu confirmé hier, rapporte 1,2 milliard 200 000. L'IFI ne portant que sur le patrimoine immobilier, alors que l'ISF portait sur le patrimoine immobilier et financier. Donc ça veut dire que la part financière, en gros, c'est 3 milliards et demi. C'est ça qu'on a perdu avec cette réforme. 3 milliards et demi, il faut savoir que le patrimoine financier des ménages, grosso modo, c'est 3 500 milliards d'euros. Donc c'est une goutte d'eau par rapport aux inégalités de patrimoine. Donc est-ce que l'ISF était même d'un point de vue lutte contre les inégalités, est-ce que l'ISF était effectivement un outil efficace pour lutter contre les inégalités? Quand on voit ces chiffres, j'en suis pas certain.
Guillaume Allègre.
L'ISF, effectivement, sur le patrimoine financier, c'était 3 milliards d'euros. Sur 3 000 milliards d'euros, c'est-à-dire que l'ISF ne pesait que 0,1% du patrimoine financier des ménages. Donc, penser qu'il peut y avoir des forts effets indésirables alors que le poids de l'ISF était si faible, on peut retourner l'argument.
Alors, Léo Charles, vous êtes un peu à l'origine de cette émission, puisque c'est le point de départ, c'est cette note que vous avez rédigée. Qu'est-ce que vous répondez à Étienne Lehmann quand il dit on aurait pu parfaitement maintenir l'ISF et passer par d'autres voies?
Je vais peut-être vous surprendre, mais moi je suis pas forcément pour l'ISF, mais je trouve que l'ISF se justifie parce qu'aujourd'hui on a un impôt sur le revenu qui est de moins en moins progressif, voire dégressif sur les 5% des ménages les plus riches.
Je pense qu'il faut préciser pour nos auditeurs ce que veut dire l'impôt progressif.
Alors, tout simplement, c'est plus votre revenu augmente, plus vous êtes taxé en pourcentage de votre revenu. Et donc on devrait avoir une courbe croissante, c'est-à-dire que plus vous êtes riche, plus vous payez d'impôts en pourcentage de votre revenu. Or, il y a des travaux, notamment de Thomas Piketty, qui montrent que finalement les 10% les moins riches ont un taux moyen d'imposition équivalent aux 10% les plus riches. Et donc ça, à mon sens, ça justifie le fait d'avoir un ISF pour peut-être un peu contrebalancer ce manque
Alors,
de progressivité.
Alors, un taux moyen, ça veut dire que quand on est très riche, on paye 10%.
Alors, c'est quand on prend ce que vous payez en impôts divisé par vos revenus, ça fait voilà une quarantaine de pourcents pour les ménages les plus pauvres et les ménages les plus riches.
Et ça, c'est pas bien.
Alors ça montre, à mon avis, un problème de société, un problème de justice fiscale.
Guillaume Allègre, il faudrait que les plus riches soient imposés à 60-70%.
Bah, la question se pose. Après, j'ai quelques réserves là sur les chiffres qui viennent d'être avancés. Premièrement, c'est l'ensemble de l'imposition, hein, impôt plus cotisation sociale. Et effectivement, la non-progressivité en haut de l'échelle de revenus est liée au fait que les plus riches ont beaucoup de revenus du patrimoine sur lequel ils payent pas de cotisation sociale. Mais la contrepartie, c'est qu'ils n'ont pas de droit non plus, droit au chômage, à la retraite. Alors que les travailleurs qui payent des cotisations sociales ont des droits. Donc si on regarde, et une deuxième réserve aussi, effectivement la progressivité de l'impôt en France est relativement faible. Donc si on regarde comment le système socio-fiscal réduit les inégalités, en fait il est réduit par un tiers par l'impôt et par deux tiers par les prestations sociales. Donc c'est surtout les prestations sociales finalement qui réduisent les inégalités. Donc les minima sociaux, les allocations familiales, les allocations logement.
Alors on va aller voir sur le terrain comment réagissent les premiers concernés à la disparition de cet impôt sur la fortune. Dans ce reportage éco-d'ici éco-d'ailleurs, Gabriel Maréchaux du service économique de RFI est allé promener son micro dans un des quartiers huppés de Paris, dans le 16e arrondissement. Écoutez.
Dans les rues calmes et verdoyantes du chic 16e arrondissement, il est un sujet qui ne laisse personne insensible.
Que penseriez-vous d'un hypothétique retour à l'ISF dont on parle beaucoup en ce moment ?
Beaucoup de mal.
Annie sort du centre des impôts. Quand il était encore en vigueur, elle payait l'ISF, un impôt qu'elle trouve encore aujourd'hui injuste.
C'est un impôt déclaratif, donc les petits malins qui n'ont jamais déclaré, ils passent à l'as. Ceux qui sont très bien informés s'arrangent pour ne pas avoir à le payer. Je fais partie de la classe moyenne un peu aisée où c'est nous qui sommes sans arrêt sollicités et moi j'en ai jusque-là. Je trouve que l'impôt est mal réparti. Quand vous pensez qu'il y a plus de la moitié des gens qui ne payent pas d'impôt, il y a un symbole qui devrait être fait.
Il y a toujours plus riche que soi, et pour Catherine, qui était également assujettie à l'ISF, si cet impôt était rétabli, il devrait se concentrer sur les très grandes fortunes.
L'ISF, ça dépend à partir de où on met la barre. Je pense que c'est pas au niveau de ceux qui sont dans la tranche moyenne des salaires, il faut que la barre soit beaucoup plus haute.
Marianne questionne-t-elle ce qui était pris en compte pour calculer l'impôt sur la fortune.
Je ne sais pas si c'est juste de faire entrer le domicile familial, principal, dans l'ISF.
Elle souhaiterait également plus de transparence.
L'important, c'est de savoir que si on paye des impôts, en général, c'est pour le bien commun. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on paye beaucoup d'impôts, c'est vrai, et on ne sait pas du tout où cela va. Est-ce que ça va uniquement pour payer la dette ? C'est le tonneau des Danaïdes, ici, en France. On ne sait pas où va l'argent.
Près de l'église d'Auteuil, Gérard se réjouit, lui, d'être passé entre les mailles du filet de l'ISF.
J'étais juste à la limite.
Mais il ne pense quand même pas que son rétablissement serait une bonne chose.
C'est un impôt qui fait fuir les capitaux et il se place ailleurs qu'en France.
Il en est convaincu, l'abandon de l'ISF catalyse une colère non justifiée.
C'est un peu un chiffon rouge qui est agité, mais qui n'a pas véritablement de justificatif.
77% des Français pensent eux le contraire et souhaiteraient le retour de l'ISF, une mesure auquel le gouvernement se refuse toujours.
Un reportage dans les rues des beaux quartiers de Paris signé Gabriel Maréchaux dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons, vous l'aurez compris, de l'ISF, l'impôt sur la fortune, et de comment taxer la richesse, comment taxer le patrimoine avec trois invités, Léo Charles, maître de conférence à l'université Rennes 2, Étienne Lehmann, professeur d'économie à l'université Paris Panthéon Assas, et Guillaume Allègre, économiste à l'OFCE. Pourquoi est-il important de taxer la richesse ? On l'a déjà dit, mais dans ce reportage, Étienne Lehmann, il y a beaucoup de gens qui estiment que l'ISF, c'est pas pour eux, c'est pour les autres.
Ça, c'est un grand classique. L'impôt désiré par chacun, c'est toujours l'impôt désiré payé par celui qui est plus riche que soi. Ça, c'est un grand classique des sondages sur l'acceptabilité de l'impôt. Donc, c'est justement pour ça. L'un des gros problèmes, c'est qu'on a en fait un système fiscal qui est très compliqué, avec une multitude. On a souvent préféré multiplier les petites taxes sur les mêmes bases fiscales plutôt que d'avoir des grands impôts bien visibles et donc effectivement avec des forts taux. Et donc ça entretient un climat de suspicion sur « ah mais moi je paye des impôts, mais je paye trop d'impôts par rapport aux autres qui arrivent à y échapper », et ça c'est absolument délétère pour l'acceptabilité de l'impôt et pour la gouvernance fiscale. Donc c'est un peu ça aussi qui illustre votre reportage.
Léo Charles, l'un des arguments utilisés par le pouvoir, par Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est de dire « si on enlève l'ISF, ça va faciliter les investissements d'abord des gens qui payaient l'ISF qui vont investir leur argent dans l'industrie, dans l'économie réelle française, et puis ça va faire venir des investissements étrangers. » Qu'est-ce que vous en pensez de cet argument ?
Alors, plusieurs points. La première chose, c'est que avec l'ISF, on avait un système ISF-PME qui permettait justement de payer moins d'ISF si on investissait dans les PME. Quand on supprime ça, on va voir dans quelques temps l'effet que ça a sur l'investissement des PME, mais déjà, c'est à mon sens problématique. La deuxième chose, c'est que l'investissement ne se fait pas financer forcément par la bourse et par l'achat d'actions. Les PME ou les entreprises préfèrent d'abord l'autofinancement, c'est-à-dire utiliser leurs fonds propres pour investir, ou le crédit, et ensuite ils émettent des actions, etc. Et ce que je montre moi dans la note, c'est que finalement la contribution de la bourse, c'est-à-dire les émissions nouvelles d'actions qui vont directement dans la poche des entreprises, ça représente 2,55% de l'investissement global. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler la contribution de la bourse à l'investissement productif en France. Et troisième élément, j'allais dire, quand on a de très hauts revenus ou un fort patrimoine, j'allais dire, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc si on ne contraint pas les gens à investir en France, rien ne nous garantit finalement que on va avoir un élan patriotique et qu'on va investir dans les entreprises françaises.
Guillaume Allègre.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ISF touchait les résidents français. Donc lorsque vous dites que ça va inciter les investissements étrangers, en fait les investisseurs étrangers ne payaient pas d'ISF déjà. Donc c'est bien les résidents français qui étaient soumis à l'ISF.
Mais n'était-ce pas aussi pour créer un climat plus libéral, plus ouvert, plus sympathique aux grandes fortunes et aux cadres étrangers qui auraient voulu venir s'investir ou s'installer en France, aux grandes entreprises étrangères ?
Effectivement, pour l'installation, alors par exemple pour la place financière de Paris, ça pourrait être positif, puisque les traders, maintenant on sait qu'il y a des traders de la City qui recherchent peut-être d'autres endroits pour s'installer. Et effectivement, dans ce cas-là, après il y a des effets pervers aussi, hein, parce que tout le monde n'est pas mécontent à Londres que les traders partent et vu les prix de l'immobilier
dans la capitale britannique.
Dans la capitale britannique, effectivement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que donc comme l'ISF touchait les résidents et pas l'investissement, c'est-à-dire même des gens qui partent. Alors il y a les Mulier, les Peugeot,
les Mulier, il faut dire, c'est la famille fondatrice et propriétaire de la chaîne Auchan, d'un supermarché.
Exactement, Decathlon et beaucoup de magasins de distribution. Et donc eux, ils sont partis en Belgique, mais leur fortune est toujours investie en France, en fait, puisqu'ils ont des actions. Ils gardent leurs actions au champ et donc leur patrimoine est toujours investi en France. Donc il y a bien une déconnexion entre l'investissement du patrimoine et là où vous résidez. Vous pouvez être français et investir dans des actions étrangères ou étrangers et investir en France.
Mais ce que vous voulez dire, c'est que par exemple, pour prendre cette famille Muliez, qui est une famille possédante comme il y en a beaucoup en France, ils ne payaient pas l'ISF parce qu'ils n'étaient pas résidents.
Voilà, donc les Muliez ne payent plus l'ISF parce qu'ils sont partis en Belgique. Enfin, une grande partie de la famille est très grande, mais une partie de la famille est partie en Belgique pour ne plus payer d'ISF, effectivement. Mais leur investissement est toujours en France.
Et ils contribuent toujours à l'économie française.
Exactement.
Par le biais de ces activités commerciales nombreuses et importantes.
Exactement.
Étienne Lehmann, est-ce qu'il faut rétablir l'ISF ?
Vous avez chic pour poser des questions, vous.
Non, mais
Sur n'importe quel impôt, en fait, le problème, c'est que d'un côté, on a envie que l'État ait davantage de ressources parce qu'il y a des services publics à financer. Et d'un autre côté, il faut faire attention à ce que cet impôt ne décourage pas le montant de la base fiscale sur laquelle il repose, ne décourage pas les comportements, ne décourage pas la croissance, l'emploi, ce genre de choses. Et donc, à un moment donné, la question que vous posez, c'est une question politique. Alors évidemment, moi j'ai mon opinion en tant que citoyen, mais je pense pas que ce soit ça qui vous intéresse. Je pense pas que mon métier de professeur consiste à donner mon opinion. Moi, mon métier, ça consiste à vous donner les arguments. Donc effectivement, est-ce que l'ISF contribue à réduire les inégalités de patrimoine ? En réalité, on l'a déjà vu, l'ISF avait des trous. Et l'ISF était un impôt autodéclaré. Donc de ce point de vue-là, on sait que les impôts qui sont autodéclarés sont des impôts qui ont un mauvais recouvrement. L'ISF était mité par des niches, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'éléments du patrimoine qui n'en étaient pas soumis, ce qui donnait des opportunités pour les imposables à l'ISF d'y échapper. Donc, du point de vue de l'équité, l'ISF, en fait, est un filet avec plein de trous. Donc, il marchait pas très bien. C'est, tout à l'heure, d'ailleurs, on l'a dit, finalement, son rendement par rapport à la base est extrêmement faible. D'un autre côté, en termes d'efficacité, on sait encore moins de choses. En France, parce que tout simplement les données ne sont jusqu'ici pas accessibles aux chercheurs, les données microéconomiques dont on a besoin pour faire une évaluation ne le sont pas.
Quelles seraient ces données ?
Les données, ce seraient des données anonymisées où on aurait tout simplement les déclarations de patrimoine qui serviraient à l'administration fiscale pour calculer l'ISF. Pour l'instant, ce sont des données fiscales auxquelles on n'a pas accès.
Elles sont secrètes.
Elles sont secrètes.
Et donc, que permettrait le fait d'avoir accès à ces données ?
Bah, par exemple, ça nous permettrait, lorsqu'on voit que, si on était capable de suivre les contribuables à l'ISF, les foyers imposables à l'ISF sur plusieurs années, et de voir éventuellement comment leur déclaration de patrimoine change lorsque le barème change, et donc de pouvoir en évaluer ses effets réels plutôt que d'essayer de spéculer sur tel ou tel aspect. Ça a été fait au Danemark, ça a été fait en Suisse parce que les données sont disponibles. Et à chaque fois, on s'est rendu compte que l'ISF, en tout cas l'équivalent danois ou l'équivalent suisse de l'ISF, qui est beaucoup moins troué d'ailleurs, qui rentre beaucoup mieux, qui a d'autres propriétés, en réalité avait un impact sur statistiquement significatif sur l'accumulation de patrimoine.
C'est-à-dire qu'il réduisait l'accumulation de patrimoine. Et donc c'était un bon instrument contre les inégalités de répartition du patrimoine.
C'est aussi un instrument qui avait un effet significatif sur potentiellement les capacités pour les ménages de ces pays-là à financer l'économie de ces pays-là. Donc en tout cas, des effets existent. Mais c'est clair qu'on est dans le brouillard. La grande différence entre l'économie et le Titanic, c'est que dans le Titanic, il y avait un gouvernail.
Guillaume Allègre, si on prend par exemple le cas des États-Unis où Donald Trump a beaucoup réduit les impôts pour les plus riches, l'économie marche très bien. Est-ce qu'il y a un lien entre le paiement d'un impôt sur la fortune, le niveau de taxation des plus riches, et puis le fonctionnement de l'économie.
Bah, je suis keynésien, donc il y a toujours un effet de relance. Si vous réduisez les impôts, bah, j'ai en plus de pouvoir d'achat, et donc il y a un effet de relance de court terme. Mais je pense pas que qu'il y ait un effet structurel sur le taux de croissance. Par contre, j'aimerais réagir à certains propos qui ont été tenus, notamment lors du reportage. Il y a une personne qui disait ça touche les millionnaires, mais ça touche pas les beaucoup plus riches. Et effectivement, on a dit beaucoup que l'ISF, c'était un impôt sur les millionnaires, mais que les milliardaires évitaient. Et ça, c'est vrai. Donc, il y avait des problèmes à l'ISF. C'est pour ça que je suis pour un nouvel impôt sur le patrimoine, du fait que, notamment, les biens professionnels étaient exonérés d'ISF. Donc, Madame Bettencourt ne payait pas d'ISF.
Alors, Madame Bettencourt, c'est
propriétaire de L'Oréal.
La propriétaire du groupe L'Oréal de cosmétiques.
Ne payait pas d'ISF parce qu'elle avait plus de 25% des parts et donc c'était considéré comme un bien professionnel. Donc, je pense que si on doit remettre en place un impôt sur le patrimoine, il faut qu'il touche tout le patrimoine, bien professionnel inclus, quitte à augmenter le seuil, parce que il y a une personne qui parlait de classe moyenne aisée, quand même il faut pas exagérer, c'était 1,2 million le seuil du
1,2 million
d'euros de le seuil de patrimoine, et ça concernait environ 1% des foyers fiscaux, donc c'est quand même les plus riches qui étaient concernés.
La personne qui était interviewée par Gabriel Maréchaux se décrivait comme étant simplement de la classe moyenne supérieure.
Alors modulo les appartements à Paris, qui effectivement, si vous avez un appartement de 150 mètres carrés dans le 16e, vous pouvez être éligible à l'ISF. Mais par ailleurs, vous allez payer moins à Paris, vous allez payer moins de taxes foncières que ailleurs en France. Et la taxe foncière est beaucoup plus importante que l'ISF, hein, parce que la taxe foncière, c'est un autre impôt sur patrimoine, qui est un impôt sur patrimoine foncier et qui rapporte 40 milliards d'euros par an à rapporter avec les 5 milliards ou les 4 milliards que rapportait l'ISF, donc 10 fois plus.
Léo Charles,
juste pour rebondir sur ça, parce que on partage ce côté keynésien, mais pour répondre à votre question sur les États-Unis, on aurait été encore plus efficace si on baissait les impôts sur les classes les moins aisées, qui vont plus consommer, ce qu'on appelle la propension marginale à consommer, est plus importante chez les classes plus inférieures que les classes supérieures.
Oui, mais il y a déjà la moitié des gens qui ne payent pas d'impôts.
Alors ça. Sur cette phrase, il aurait fallu rajouter d'impôts sur le revenu. Parce que si on prend l'ensemble des prélèvements obligatoires, on paye la TVA, on paye la CSG. Donc c'est une... Enfin, moi, ça me hérisse le poil d'entendre des choses comme ça. En France, l'ensemble des citoyens sont taxés. Il n'y a pas juste une petite partie qui paye l'impôt. Et juste dernier point, je voudrais rebondir sur la transparence. Effectivement, on a un système fiscal qui est très compliqué. Historiquement, on a rajouté des exonérations sur des exonérations, et je crois qu'il est très important de faire le ménage un peu sur ce qu'on appelle pudiquement les dépenses fiscales, ce qui sont en fait des niches fiscales. Alors tout n'est pas à jeter, mais il y a des ressources à se faire de ce côté-là aussi, et on a largement besoin de transparence. Là, je suis entièrement d'accord.
Alors vous le savez, la France se mesure souvent à l'Allemagne, à l'égard de laquelle on dit qu'elle nourrit un complexe d'infériorité économique. Et l'Allemagne est un pays riche où on débat aussi de la nécessité de faire payer plus d'impôts aux plus fortunés, auxquels les deux dernières décennies ont été très favorables, alors que les salariés allemands modestes et les classes moyennes tirent la langue. À Berlin, c'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Pascal Thibault.
Die unfaire Republik. Reiche bevorzugt, arme benachteiligt.
Sur la première chaîne publique ARD, à l'automne dernier, un des talk-shows les plus connus se consacre à nouveau à ce sujet. Le développement des inégalités en Allemagne, avec un nombre plus important de personnes travaillant de façon précaire, le boom du marché immobilier et l'augmentation du nombre de millionnaires nourrissent un débat sur une taxation plus forte des plus riches. Les débats sur ces sujets sont très polémiques et idéologiques au Parlement comme dans les débats télévisés. Stéphane Barr, le monsieur impôt de l'Institut économique DIW de Berlin, rappelle que les plus riches ont plutôt profité de l'évolution en Allemagne depuis deux décennies.
Man muss allerdings sehen, dass wir in Deutschland in den letzten 20 Jahren.
Il faut voir que les impôts pour les personnes les plus riches et les patrimoines les plus importants ont baissé durant les 20 dernières années. L'impôt sur la fortune a été suspendu à la fin des années 90. Les taux les plus élevés pour l'impôt sur le revenu ont été baissés. L'impôt sur les sociétés a été réduit. Et les droits de succession sont chez nous deux fois moins élevés qu'en France.
Pour corriger cette évolution, le DIW propose de réduire les impôts et les prélèvements sociaux pour les plus bas revenus et les classes moyennes, tout en relevant parallèlement l'imposition des plus riches. Qu'en pensent les intéressés? L'un d'eux est le multimillionnaire Reinhard Sittelmann. Cet ancien maoïste a d'abord fait une carrière universitaire avant de devenir journaliste, puis de gagner des millions dans l'immobilier. Reinhard Sittelmann reçoit en jean et en polo dans son appartement, sous les toits, à deux pas du Kurfürstendamm, le grand boulevard de Berlin. Au mur plein de petits cochons, son animal fétiche, certains font office de tirelire.
Je verse déjà la moitié de ce que je gagne au fisc. Je trouve que ça suffit. Si l'État a aujourd'hui des rentrées fiscales inédites et les dépenses pour des projets idéologiques, je ne vois pas du tout pourquoi il faudrait discuter d'une hausse des impôts.
Reinhard Sittelmann ne se contente pas de gérer sa fortune, il publie régulièrement. Après, le capitalisme n'est pas le problème mais la solution, il vient de sortir La société et ses riches avec un sondage sur les préjugés contre cette minorité dans 4 pays.
Lors d'une manifestation à Berlin l'an dernier, on a pu voir des pancartes et des banderoles proclamant « Tue ton propriétaire ». Imaginez-vous l'émotion qu'aurait suscité une manifestation appelant à tuer des Turcs ou des gays. Les riches sont la seule minorité contre laquelle un discours de haine est toléré.
Le SPD plaide au sein de la Grande Coalition pour un relèvement des impôts pour les plus riches, mais les conservateurs sont totalement opposés à cette idée. Une réforme fiscale est donc plus qu'hypothétique.
Un reportage à Berlin signé Pascal Thibault dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI où nous parlons de l'impôt sur la fortune avec trois invités. Étienne Lehmann, professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas, Guillaume Allègre, économiste à l'OFCE et un second enseignant, un troisième invité, Léo Charles, qui vient de l'université de Rennes 2. Alors, Étienne Lehmann, je vous voyais en écoutant ce reportage plonger alternativement dans une espèce d'hilarité et puis dans des abîmes de perplexité.
Non, pas du tout. En fait, oui. chaque pays, finalement, est dans des situations différentes. Le problème des États-Unis est vraiment complètement différent, par exemple, du problème de la France. C'est deux cas polaires, l'Allemagne est peut-être un peu entre les deux. Pourquoi ? En France, grosso modo, si vous prenez la population en âge de travailler, les plus de 15 ans, vous avez simplement une personne sur deux qui travaille. La norme dans les pays de l'OCDE, enfin, norme, en gros, c'est plutôt d'être 60%. Si vous mettez de côté des pays qui ont de grandes difficultés dans leur marché du travail, comme la France, justement, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Donc ça veut dire, en fait, qu'il nous manque, des emplois. Il nous manque, en gros, si on avait un taux d'emploi, c'est ça, hein, c'est la part de la population en âge de travailler qui a effectivement un emploi, c'est ça le taux d'emploi. Si on avait en France des taux d'emploi qui seraient à peu près dans la norme de ces pays, l'Europe du Nord, les États-Unis, les pays anglo-saxons, l'Australie, le Japon, en gros, on aurait 3 millions d'emplois en plus. 3 millions d'emplois en plus, ça veut dire des recettes fiscales supplémentaires, ça veut dire des prestations sociales en moins, ça veut dire qu'en fait, effectivement, il y aurait beaucoup plus de ressources pour sortir de cette quadrature du cercle. Ah bah oui, on veut réduire le déficit, donc quelque part, il faut augmenter les impôts, mais si on augmente les impôts, on va déprimer les bases fiscales, donc on va déprimer l'économie, donc il faut réduire les dépenses, mais ça va être inégalitaire. La seule possibilité, la clé pour sortir de ce dilemme, finalement, c'est pas de réduire les inégalités. La priorité en France, et c'est pas le cas en Allemagne, c'est de créer de l'emploi. C'est ça le problème. On a 3 millions d'emplois à aller chercher. Donc, si justement j'ai quelques réticences, je suis un peu plus réticent que mes partenaires de débat aujourd'hui par rapport à l'ISF, c'est parce que je suis convaincu que la priorité pour lutter contre la pauvreté dans notre pays, je dis pas que c'est ce que je dirais si j'étais aux États-Unis ou en Allemagne, c'est de redonner envie aux chefs d'entreprise de créer de l'emploi en France. Et donc c'est pour ça que la priorité, effectivement, c'est rendre l'emploi plus attractif, et donc c'est tout ce qui touche à rendre les cotisations sociales plus lisibles, à baisser les charges sociales là où c'est efficace, c'est-à-dire sur les bas salaires. C'est effectivement, il faut faire un effort. Je pense peut-être que le président de la République a fait une erreur dans son timing en faisant l'ISF avant de faire la baisse de l'impôt sur les sociétés. Parce que il faut absolument redonner envie aux investisseurs étrangers d'investir en France. Et les investisseurs étrangers, effectivement, ils ne payent pas l'ISF. Par contre, ils payent l'impôt sur les sociétés. Et nous avons l'un des grands pays de l'OCDE. Nous sommes le pays où le taux d'imposition sur les sociétés est le plus élevé. Donc pour moi, c'était ça la priorité. Et effectivement, la priorité, c'est la lutte contre la pauvreté. Si c'est ça la priorité, c'est par la création d'emplois. Et donc, de ce point de vue-là, il faut absolument que nous avons un déficit d'emploi, un déficit d'attractivité. Et c'est pour cela que la priorité se jouer à ce niveau-là.
Léo Charles, vous vouliez réagir?
Je serais plutôt d'accord sur l'emploi. Après, j'ai des réserves. Ça fait 20 ans qu'on fait des politiques de baisse de cotisation et qu'on voit que le prix, enfin, baisser le prix du travail, je préfère prix du travail au terme coût du travail, baisser le prix du travail, ça marche pas forcément très bien. Ce que j'ajouterais, c'est que l'INSEE fait une enquête mensuelle sur comment se passent les affaires, le sentiment des affaires. Pendant très longtemps, les chefs d'entreprise disaient que le problème dont ils faisaient face, c'était pas du tout le prix du travail, c'était les carnets de commandes. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, baisser le prix du travail comme vous voulez, s'il n'y a pas de demande derrière, s'il n'y a pas de consommation, il va y avoir un problème, il ne va pas y avoir d'emploi créé. Donc pour moi, la priorité, il faudrait revoir un peu la politique économique et introduire un peu plus de politique qui va cibler la demande.
C'est-à-dire, là, on est dans un débat, me semble-t-il, extrêmement classique entre Étienne Lehmann qui privilégie une politique de l'offre et vous qui privilégiez une politique de la demande. Alors, Guillaume Allègre, est-ce que vous allez les départager?
Les deux sont importants, mais je voudrais réagir à un propos d'Étienne Lehmann qui a fait le lien entre emploi et pauvreté en utilisant l'exemple de l'Allemagne. Mais c'est un tout à fait mauvais exemple, puisque les Allemands ont créé beaucoup d'emplois et la pauvreté a quand même augmenté, parce que ça dépend de comment on crée les emplois. En Allemagne, on a créé les emplois surtout avec des mini-jobs mal payés, ce qui a créé...
Alors ce qui me semble, je m'excuse de vous interrompre, ouais, mais ce qui me semble assez paradoxal ou peut-être symptomatique, c'est que c'est une émission consacrée à l'impôt sur la fortune, donc à la richesse, et là on est en train de parler de la pauvreté, de la lutte contre la pauvreté.
C'est pas complètement paradoxal, parce que lorsque l'ISF a été rétabli en 88, 89, ça a été pour financer le RMI, la mise en place du RMI. Donc il y a un lien.
Les inégalités, c'était le revenu minimum d'insertion.
Le revenu minimum d'insertion qui a été transformé en RSA depuis. Et donc il y a un lien entre les inégalités en haut de l'échelle et puis les inégalités en bas. D'ailleurs, on voit que dans les pays où les inégalités sont les moins fortes, c'est aussi les pays où la pauvreté est la moins forte. Donc tout ça est lié. Mais pour revenir au cas de l'Allemagne, et comme ça a été dit dans le reportage, les Allemands avaient un impôt sur patrimoine qui a été supprimé suite à une décision de la cour de Karlsruhe, la cour constitutionnelle allemande, qui a statué que un taux d'imposition supérieur à 50% était confiscatoire par rapport à 50% des revenus. Et en fait, on a le même problème en France, puisque la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a statué qu'un taux supérieur à 75% était confiscatoire.
Ça, c'était la proposition et la décision du président François Hollande.
C'était pas sa décision, ça a été imposé par le Conseil constitutionnel.
Oui, mais François Hollande avait annoncé lors de la campagne présidentielle de 2012 qu'il souhaitait un taux d'imposition maximum à 75%, n'est-ce pas?
Alors ça, c'est deux choses différentes. C'était l'imposition sur le revenu, ouais. Et puis il y a la décision du Conseil constitutionnel de plafonner en fait l'addition de l'impôt sur revenu et de l'ISF à 75% des revenus. Alors pourquoi ça pose problème? Parce que l'idée de l'ISF, c'est de taxer le patrimoine et pas les revenus. Si on taxe... parce qu'il y a un certain nombre de patrimoines qui ne donnent pas de revenus. Et donc, avec ce plafonnement, en fait, donc ça crée un mécanisme d'évitement de l'impôt, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes aisées qui ont fait en sorte de ne plus avoir de revenus du patrimoine pour ne pas payer l'ISF. Donc, en ayant des actions qui payent pas de dividendes, par exemple. Et donc, du coup, ce plafonnement n'est pas justifié, je pense, économiquement, si on pense que le patrimoine, au-delà des revenus qu'il peut donner, augmente la capacité contributive des ménages.
Alors, le débat sur l'ISF, il occupe beaucoup les pays développés, mais aussi les pays qui sont dans des zones moins prospère. Prenons pour exemple le pays le plus riche d'Afrique et l'un des plus inégalitaires au monde malgré tout, l'Afrique du Sud. 25 ans après l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, la société sud-africaine est toujours extrêmement polarisée. La minorité blanche bénéficie toujours du capital accumulé sous le régime de l'apartheid. Plus de 90% des biens sont détenus par moins de 10% de la population. Au pouvoir depuis 1994, l'ANC a souvent promis de mettre en place un véritable impôt sur la fortune pour réparer les injustices vestiges du passé, mais rien ne bouge en réalité. Et l'accent est mis sur l'attractivité vis-à-vis des investisseurs sud-africains et étrangers. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Noé Ochebaudin à Johannesburg.
Le système de taxation sud-africain doit faire face à un défi majeur aujourd'hui. Ce n'est pas tant le taux d'imposition qui pose problème, mais le faible nombre de contribuables parmi les 55 millions de Sud-Africains. Mounir Hassan est professeur à l'université de Johannesburg.
Our tax payers is only about 5 to 6 million.
Nous avons uniquement 5 ou 6 millions de contribuables, et parmi eux, 500 000 participent à hauteur de 80% des recettes totales du pays.
Selon lui, il existe déjà un ISF à la sud-africaine.
Nous avons déjà en Afrique du Sud une taxe sur l'immobilier, une taxe sur l'héritage, qui sont des impôts sur la fortune. Introduire un nouvel impôt sur la fortune ferait peur aux riches sud-africains.
L'estate duty, par exemple, taxe à hauteur de 20% les biens immobiliers d'une valeur supérieure à 220 000 euros et à 25% au-dessus de 2 millions d'euros, une taxe qui aurait déjà fait fuir beaucoup de riches sud-africains, affirme Ruan Van Eden, expert fiscal à Geneva Management Group.
Si vous regardez les statistiques, depuis 10 ans, plus de 250 000 personnes ont émigré d'Afrique du Sud et on estime la perte en termes de revenus liés aux taxes à près de 12 milliards d'euros.
Un exode motivé aussi par les dysfonctionnements du modèle sud-africain.
En tant que contribuable, vous voulez être sûr que vous bénéficiez des taxes que vous payez. Et c'est un grand problème en Afrique du Sud. Beaucoup de contribuables, et particulièrement les très riches, ont la sensation de ne pas avoir de retour sur investissement.
Le parti de Mandela, l'ANC, promettait un ISF il y a 25 ans déjà. Ce n'est tout simplement plus la priorité, assume Enoch Godongwana, directeur du comité de la transformation économique de l'ANC.
Je ne peux pas dire si on ne le fera pas dans 10 ans, mais je peux dire qu'on ne le fera pas dans les 3 ou 5 ans. Pas maintenant. À cause de la situation économique, il n'y a pas de proposition à l'heure actuelle. La première priorité pour le président, c'est attirer l'investissement.
Tembin Kossi Dlamini de l'ONG Oxfam a lui un autre avis sur l'immobilisme de l'ANC.
Il y a un manque de volonté politique. Après 1994, beaucoup de figures de la lutte, comme le président Ramaphosa, sont devenus millionnaires d'un jour à l'autre. Et ils ont été membres de cette élite.
Lors du grand discours sur le budget mercredi dernier, aucune annonce n'a en effet eu lieu sur un possible ISF sud-africain.
Un reportage à Johannesburg signé Noé Ochebaudin dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Étienne Lehmann, il y a un mot qui m'a interpellé dans ce reportage, qu'on n'a pas encore prononcé dans toute cette émission, qui est le mot de succession, impôt sur la succession. Est-ce que c'est une manière de taxer la richesse ?
Moi, je pense que c'est une manière plus efficace. Enfin, mon intuition serait que, pour lutter contre la concentration de patrimoine, le mieux, c'est effectivement de jouer sur l'impôt sur les successions. Et que, en tout cas, c'est quelque chose qui serait plus effectif que l'ISF. Pourquoi ? Parce que l'un des problèmes de l'ISF, c'est qu'il est auto-déclaré. Et donc...
Là, on parle de la France.
On parle en France. Oui. En tout cas, tel qu'il est fait. Ce qui est pas le cas, effectivement, de l'équivalent danois, l'équivalent suisse. Mais en tout cas, tel qu'il était perçu, l'ISF, il était autodéclaré. Et donc, il y a une forte tentation, surtout lorsque l'essentiel de votre patrimoine est immobilier. Bah, la maison de famille, qui est dans la famille depuis 20 ans, depuis 30 ans, elle vaut combien? Oh, allez, je sais que le seuil de l'ISF est à 1,2 million. Elle vaut certains experts immobiliers vont me dire qu'elle vaut 1,1 million. D'autres vont me dire qu'elle vaut 1,3 million. Quelle est la valeur que je vais déclarer à l'administration fiscale? Qu'est-ce que vous feriez, vous, monsieur Boris, si vous étiez dans cette situation?
Je déclarerais 1,3 million sans problème.
Bien sûr, bien entendu.
Je suis un bon citoyen.
Bien entendu. Bon, mais surtout qu'il faut savoir que entre celui qui a un patrimoine de 1,199,000 et celui qui a un patrimoine de 1,200,000, il y a tout de suite, on passe d'un ISF de 0 à 2,500 euros, je crois. Donc il y a un effet de seuil. En plus, le barème de l'ISF est très mal fait parce que il pousse au crime, il pousse en tout cas à la sous-déclaration parce que justement il y a un effet de seuil, non seulement en taux, mais en niveau d'impôt qui pousse à cette sous-déclaration. Donc il y a plein de choses qui vont pas dans l'ISF. En revanche, avec l'impôt sur les successions, vous n'avez pas cet effet de seuil. Vous avez différentes tranches, mais vous n'avez pas cette discontinuité. Et il y a autre chose qui est très intéressant, c'est que lorsqu'il y a une succession, il y a une partie tierce entre l'administration fiscale et le contribuable qui intervient. Ce sont les notaires. Et donc, on pourrait très bien envisager de demander au notaire de faire davantage de travail de certification de la valeur du patrimoine hérité. Et de ce qui permettrait de lutter contre cette possibilité d'évasion. Si vraiment on voulait, en plus, il faut savoir qu'avec le vieillissement de la population, le rôle des héritages va de plus en plus augmenter à l'avenir. Si effectivement on veut utiliser l'impôt sur les successions pour lutter contre le patrimoine, il y a deux choses à faire. La première, c'est de bien se rendre compte qu'il y a des niches. Là encore, il y en a une qui s'appelle l'assurance vie, qui bénéficie d'une fiscalité privilégiée, non seulement en revenus, mais aussi au niveau des successions. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas supportable. Il faut absolument que les choses soient simplifiées et que les barèmes soient uniformisés. La deuxième chose, c'est qu'il faut rassurer nos citoyens. L'impôt sur les successions est aujourd'hui l'un des impôts les plus impopulaires en France. Pourquoi ? Parce que tout le monde pense qu'il va hériter, et donc tout le monde pense qu'il va être soumis à l'impôt sur les successions. Il s'agit ici, c'est de taxer les gros patrimoines, c'est de taxer les gros héritages. Parce que c'est justement ce...
C'est quoi un gros patrimoine ?
En tout cas, c'est largement au-dessus de 200 000, 300 000 euros. Parce que ce qu'il faut... là aussi, le seuil, il faut en discuter. Le seuil, c'est quelque chose de politique. Mais l'enjeu, c'est d'éviter que les 1% les plus riches accumulent beaucoup plus de patrimoine que les autres. Donc les 99%, les 98% qui sont en dessous n'ont pas forcément à craindre une réforme d'alourdissement de la taxation des patrimoines. Et au contraire, je pense que c'est l'un des outils les plus efficaces pour combiner le désir qui est important de lutter contre la concentration du patrimoine, tout en essayant de limiter les effets désincitatifs sur l'investissement, l'activité que l'on peut craindre d'un impôt comme l'ISF.
Léo Charles, ça vous rassurerait ?
Je crois pas que les deux soient antinomiques. On peut très bien avoir les deux et l'argument que je retiens, c'est de dire l'ISF a des trous, donc supprimons-le. On peut avoir aussi un argument complémentaire ou contraire qui dirait l'ISF a des trous, comblons-les. C'est autodéclaratif, on peut changer cette façon-là. On peut embaucher des personnes dans l'administration fiscale pour mieux récupérer l'impôt. Donc, moi, je trouve que c'est aller un peu rapidement de dire voilà, il y a des trous, on le supprime.
Guillaume Malag.
Moi, je suis plutôt favorable à l'imposition sur les successions. D'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il était encore ministre de l'économie, avait dit l'ISF n'est pas un bon impôt, mais les droits de succession sont un bon impôt. Mais là, on a vu qu'il a supprimé l'ISF sur le patrimoine financier sans augmenter les droits de succession. Pourquoi ? Parce que, effectivement, l'ISF était l'impôt le plus populaire. Et les droits de succession est l'impôt le plus impopulaire. Donc, c'est effectivement difficile de penser qu'on va pouvoir augmenter drastiquement les droits de succession alors que c'est l'impôt le plus impopulaire. Alors pourquoi c'est un impôt impopulaire ? En partie parce qu'il touche plus de gens que l'ISF. L'ISF c'était 1% des foyers fiscaux, les droits de succession c'est 20%. Donc il y a quand même déjà 80% des gens qui sont exonérés. Et un argument aussi qu'on entend souvent, c'est de dire que les droits de succession seraient une double taxation. On a déjà payé un impôt sur revenu et là on va repayer un impôt sur l'impôt. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse partie du patrimoine lors de succession qui n'a jamais été taxé, notamment sous forme de ce qu'on appelle plus-value latente. C'est-à-dire que si vous avez acheté un appartement à Paris de 100 000 euros il y a 20 ans, aujourd'hui, il en vaut 600 000. Donc, vous avez 400 000 euros de revenus, finalement, qui n'ont jamais été imposés. Et ce que font les Canadiens, c'est qu'ils ont remplacé l'impôt sur les successions par un impôt sur les plus-values latentes lors des transmissions. C'est-à-dire que lors de la transmission, vous allez payer sur la plus-value latente, c'est-à-dire 600 000 moins 200 000, vous allez payer un impôt de 400 000 euros. Alors les Canadiens, ils imposent beaucoup parce que ça, c'est dû pour l'impôt sur revenu. C'est-à-dire que c'est imposé avec un taux marginal à 40%. Et donc, ils récupèrent beaucoup d'argent par ce biais-là, malgré le fait qu'ils aient supprimé les droits de succession.
Étienne Lehmann, on n'a pas dit un mot, malgré tout, de ce qui se passe en Afrique du Sud, de cette situation surprenante, où il y a quand même très peu de gens qui payent non seulement l'ISF, puisqu'il n'y en a pas, mais l'impôt.
Vous savez, pour que l'impôt rentre, il faut que l'administration fonctionne. Pour que l'administration fonctionne, il faut que la sécurité soit là. L'Afrique du Sud est un pays formidable, mais c'est un pays incroyablement violent. Je crois que Johannesburg est l'une des métropoles où le taux de criminalité est le plus élevé. Et typiquement, c'est un impôt où j'imagine que ce qui décourage les investisseurs, c'est beaucoup plus, j'imagine, les problèmes de sécurité et d'insécurité que des problèmes de fiscalité. Il faut savoir que dans la manière dont les pays développent d'abord des impôts relativement faciles à administrer. Historiquement, en France, on a utilisé des impôts indirects, on a utilisé des droits de douane. Pourquoi ? Parce que c'était ça qui était plus facilement observable. L'impôt sur la fortune, ça nécessite une administration assez sophistiquée. Parce que justement, il faut être capable d'avoir un système de déclaration par des tiers de la valeur du patrimoine, ce qui nécessite des institutions qui sont compliqué. Donc mieux vaut d'abord améliorer le fonctionnement de l'État, la sécurité, pour améliorer la perception des impôts entre guillemets classiques. Mais intuitivement, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise stratégie que d'essayer d'abord d'avoir des bonnes rentrées fiscales sur les impôts classiques avant de se lancer dans des impôts qui nécessitent une administration sophistiquée.
Cette émission est maintenant terminée. Merci Étienne Lehmann. C'est sur ce mot sud-africain que nous la concluons. Elle a été réalisée et mise en onde par Mathias Golchani et Olivier Roux. Donc je vous remercie Étienne Lehmann, Guillaume Allègre, Léo Charles d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet www.rfi.fr ou sur l'application Pure Radio de votre téléphone portable. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.